73 93. Espace 2 diffusera quelques-uns des concerts dans l'écoute des mondes les dimanches à 16h avec le magazine L'Hebdo.
Espace 2, Annick Chuin.
Bienvenue dans les temps qui courent, nous suivons aujourd'hui Véronique Dazen, historienne et spécialiste de la petite enfance dans l'Antiquité. Longtemps, le monde de la petite enfance dans les sociétés antiques est resté inexploré. Aujourd'hui, historiens et sociologues, poussés peut-être par les mutations actuelles en matière de famille et de procréation, se penchent volontiers sur ce terrain varié et particulièrement vivant de l'histoire qui nous fait pénétrer au cœur des usages et des croyances quotidiennes et qui nous renvoie aux mythes et aux pratiques rituelles infantiles. Jusqu'au 24 avril prochain, le musée romain de Nyon accueille une exposition créée par le service archéologique de Bourges en France, une exposition intitulée « Maternité et enfance », une expo qui propose également des objets qui se rapportent à la vie de la région de Nyon, mais aussi d'Aventicum, Avenches, qui était la capitale de la Gaule romaine. Christian Tchoka a mis ses pas dans ceux de Véronique Dazen, commissaire pour la Suisse de l'exposition.
C'est une exposition qui, à son niveau, je crois, constitue un événement. Jusqu'alors, on s'est très peu intéressé à l'histoire de la maternité et de la petite enfance. Et cette exposition, par ses objets, donne une voix à des acteurs qui n'en avaient pas, qui n'ont presque pas laissé de traces écrites, comme la femme enceinte, la jeune maman, le nourrisson.
On va surtout parler d'actrices qui, non seulement n'ont pas beaucoup la parole dans la Rome antique, Véronique Dazen, peut-être même pas un statut de majeure.
Non, la femme est une éternelle mineure à l'époque romaine et le mariage constitue pour elle un moment très fort dans sa vie puisqu'on va attendre d'elle qu'elle produise des enfants. On se marie pour avoir des enfants. Et celui qui va en parler de manière détaillée, pour nous c'est une source très précieuse, c'est un homme dont on sait peu de choses qui s'appelle Soranos. On sait seulement qu'il vient d'Éphèse en Asie mineure et qu'il vit à la fin du 1er siècle après Jésus-Christ. Il est probablement médecin, il a écrit des traités médicaux dont un traité de gynécologie des maladies des femmes, auxquelles je vais souvent me référer, parce que c'est pour nous une mine d'informations sur ce temps de la grossesse.
Est-ce le plus ancien traité de gynécologie et d'obstétrique que l'on connaisse ?
C'est le plus ancien traité de gynécologie conservé. Bien sûr, il y en a certainement eu d'autres, mais c'est le plus ancien conservé. Et il aura en plus une vie très très longue. Il va servir de référence au Moyen-Âge, à la Renaissance. Et vous allez le voir, il y a toutes sortes d'idées reçues qui sont formulées par Soranos, qui vont durer jusqu'au 19e, voire 20e siècle.
Quand on parle d'idées reçues, Véronique Dazen, est-ce que l'on doit se dire qu'en lisant Soranos, ce sont des préjugés d'hommes par rapport au monde féminin et à la grossesse et l'accouchement, ou bien y a-t-il aussi des indications tout à fait utiles qui peuvent nous surprendre en bien aujourd'hui ?
Effectivement, il y a non seulement des idées reçues, mais ces idées reçues, il faut savoir, c'est pas simplement des croyances. On les fonde sur un raisonnement, sur une logique. C'est pour ça d'ailleurs qu'elles vont durer si longtemps. Et effectivement, il y a toutes sortes de pratiques que nous jugerons aujourd'hui très modernes, que l'on trouve dans Soranos.
Revenons à Soranos, car c'est notre guide. Est-ce le guide principal de cette exposition Maternité et enfance ici à Nyon ?
Alors on va aussi trouver un très bel herbier qui nous rappelle que l'on avait recours à toute une pharmacopée très riche, c'est les plantes des femmes, dont on trouve des recettes chez Pline l'Ancien et d'autres auteurs aussi. Alors cet herbier est composé de plantes qu'on appelait alors les plantes de la matrice ou les plantes des seins qui vont favoriser l'allaitement, qui vont aider à l'expulsion de l'enfant, voire même souvent à l'expulsion, on dit, d'un fœtus mort, ce qui nous rappelle que très souvent, ces accouchements se passaient mal.
La mortalité infantile était très importante, j'imagine. Ça, c'est un peu une constante dans toutes les époques avant notre modernité.
Absolument. On peut dire mortalité périnatale, donc aussi bien de la mère en couche que du jeune enfant. On a beaucoup de peine à avoir des chiffres précis. On dit une femme, 3 femmes sur 10 mouraient lors d'un accouchement, comme elles en avaient 5 à 6. On peut imaginer un taux de mortalité très élevé, mais tous ces chiffres sont issus des études sur l'Ancien Régime, donc le 18e. Mais comme vous l'avez dit, très probablement, c'était la même chose dans l'Antiquité. 1 enfant sur 2, pense-t-on, mourait dans la première année de sa vie.
Donc on imagine aussi que cette dimension, donc cette mortalité infantile, Véronique Dazen, est une formidable pression, une préoccupation dans une société comme Rome, qui non seulement essaie d'agrandir un empire, mais doit songer à sa pérennité.
C'est un grand souci et en témoigne, comme on le voit ici dans la première vitrine, tous les ex-voto que vont amener les femmes dans les sanctuaires, surtout les sanctuaires des eaux, des sources, les sources bienfaisantes qui vont procurer aussi bien la fécondité que la guérison. Et là, on a des objets qui sont très touchants, il y a des emmaillotés, des enfants emmaillotés que des femmes vont apporter. Alors, quelle est la signification de ces emmaillotés? S'agit-il de nouveau-nés? Et on apporte un remerciement à la divinité pour cette naissance qui s'est bien passée, cet objet? Ou bien l'enfant est-il malade? Et on espère alors qu'il soit guéri. Ou bien tout simplement on espère être enceinte, donc on va apporter l'image d'un bébé.
Espérer être enceinte, ça nous ramène donc avant la naissance, bien sûr, Véronique Dazen. Que sait-on de l'attente de l'enfant dans la Rome antique?
Alors on revient à nos idées reçues qui vont durer très longtemps. Le roman a d'abord en premier un grand problème. Donc la jeune femme désire être enceinte, mais on ne connaît pas le phénomène de l'ovulation, donc on se trompe complètement sur le bon moment pour être enceinte. On croit que c'est peu après les règles, c'est quelques jours après les règles qu'il faut que les époux s'unissent pour concevoir. C'est bien sûr complètement faux, mais normalement c'est environ 15 jours après les règles. Donc peut-être qu'involontairement, celle qui se documentait, qui s'informait, pratiquait une forme de contraception involontaire.
Vous venez de parler de contraception, Véronique Dazen. Moi, j'aimerais comprendre, y avait-il des traités de contraception? Avait-on quand même, plus que les Grecs notamment, une science de tous ces domaines?
On trouve ci et là des allusions, bien sûr, à des procédés contraceptifs. On parle de pessaires que l'on peut appliquer dans l'utérus. Des auteurs modernes ont essayé de tester l'efficacité de ces produits. Ce qui est certain, c'est que les femmes vivaient dans une grande incertitude, à la fois d'être enceinte et de ne pas procréer, dans les deux sens.
On va peut-être s'approcher de cette vitrine, puisque vous nous parliez d'ex-voto. Ça nous ramène à la dimension religieuse de la Rome antique. On a l'habitude de présenter les Romains comme des gens pratiques. Néanmoins, leur irrationnel, leur religiosité est très forte.
Oui, et puis cette religiosité a des racines très anciennes. On va s'arrêter ici devant une vitrine qui montre des gemmes magiques. Ces gemmes ont un destin assez extraordinaire parce qu'elles sont fabriquées, on pense, en milieu alexandrin. Donc là, on est en Égypte. On est en Égypte et elles commencent à être produites vers le 1er siècle avant Jésus-Christ. Celles que vous avez exposées ici datent des 2e, 3e siècle après Jésus-Christ, mais leur iconographie n'a pas changé. Et leur iconographie, si on la regarde de plus près, elle remonte même à une tradition égyptienne. Alors elle comporte des signes, ce qu'on appelle des caractères, des signes magiques, des formules magiques, qui sont écrits toujours en grec, mais les divinités sont égyptiennes. On voit Anubis, on voit Isis, qui est la protectrice de l'enfant à naître, et on y voit surtout un objet, une chose qu'on ne voit nulle part ailleurs, c'est un utérus ventouse. Donc ces gemmes magiques sont destinées à protéger la femme, aussi bien dans l'attente d'une conception, ou même dans sa vie quotidienne, pour qu'elle n'ait pas de règles douloureuses, etc., ou bien au moment de l'accouchement, pour favoriser l'accouchement.
Utérus ventouse, expliquez-moi.
Alors ça remonte à Hippocrate. Hippocrate nous explique que l'utérus a la forme d'une ventouse ou, dit-on, d'un pot renversé. Alors cette forme de ventouse se rapporte aussi à la façon dont on imagine qu'il fonctionne, cet utérus, c'est-à-dire qu'il doit aspirer le sperme et le retenir. Alors sous l'utérus, vous allez voir qu'il y a une clé qui est destinée à bien fermer la matrice une fois que le sperme y est entré. Puisqu'on se représente la conception comme un phénomène qui dure sur une certaine période. Il faut plusieurs jours pour que ce sperme se coagule, prenne forme et devienne un fœtus.
Comme si l'utérus, chez les Romains, était une sorte de chambre, ou je dirais même une sorte de four banal, une petite boulangerie en somme.
Tout à fait. C'est d'ailleurs aussi de la petite boulangerie qu'on s'adonne quand on veut connaître à l'avance le sexe de l'enfant à naître. On va fabriquer avec un peu de farine, du lait de la future mère, donc c'est peu avant le terme de la grossesse. On va former donc une petite boule qu'on va cuire. Et si elle s'ouvre, si une fente apparaît, on pense que ce sera une fille. Et si la boule reste entière, ce sera un garçon.
Alors si la femme reste mineure dans la civilisation romaine, Véronique Dazen, doit-on considérer que quand elle devient mère, quand elle attend l'enfant, son statut change ?
son statut est plus valorisé. C'est important d'être mère, c'est important surtout de donner naissance à des fils. Maintenant, chez Soranos, on trouve des éléments modernes dans le sens où lui, contrairement à ses prédécesseurs qui vont juger qu'être enceinte pour une femme, c'est s'assurer une meilleure santé, puisque cet utérus doit s'assouplir, il doit être rempli, donc elle doit procréer, lui va juger que la grossesse est plutôt source de problèmes de santé et que dans le fond, une femme peut être tout à fait normale sans avoir jamais eu d'enfant, et que même à la limite, une virginité de longue durée est un idéal.
Ça me fait penser qu'en Suisse, on considère, ça a changé tout dernièrement, on considère encore la grossesse comme une maladie.
Alors pour Soranos, ce n'est pas vraiment une maladie, mais c'est une source de désagrément et de danger.
Alors les dangers, Véronique Dazen, il faut qu'on en parle parce que vous avez évoqué une pharmacopée très importante, vous avez évoqué un herbier pour venir en aide à la femme enceinte et à la parturiente. Et puis j'aimerais qu'on se penche maintenant sur l'accouchement proprement dit. Là, nous sommes devant un panneau qui nous indique, alors avec une source médiévale, puisque la perspective de Soranos va se perpétuer durant des siècles jusqu'au Moyen-Âge précisément.
Entre autres, pour une innovation qu'il apporte, Soranos va décrire comment tourner l'enfant dans la matrice quand il se présente mal. Et ça, bien sûr, c'est une petite révolution, dans tous les sens du terme. Il dit d'ailleurs avec fierté que ces gestes qu'il va décrire ont permis de sauver beaucoup de vies. Et l'illustration qu'on a sur ce panneau est précisément d'une mauvaise présentation d'enfant, donc qu'il soit par le siège, qu'il soit par les jambes, ou bien ici une position transversale. Lui va décrire comment la sage-femme doit introduire la main dans la matrice et comment elle doit renverser l'enfant suivant qu'il se présente de cette manière-ci ou de cette manière-là.
Donc une véritable connaissance en obstétrique qui est ici appliquée. Alors on le voit, c'est donc un cercle avec une échancrure qui représente le vagin, l'entrée de l'utérus. Et puis là, alors un fœtus qui est les bras tendus, un petit peu comme un Christ, en tout cas dans une sorte de geste d'accueil, hein, va-t-on dire, Véronique Dazen?
Oui, bon, évidemment, c'est un document du 12e, 13e siècle, donc déjà emprunt d'une philosophie qui met l'homme et le fœtus dans l'utérus comme l'homme dans le cosmos. Mais dans les illustrations plus anciennes, on ne les a pas conservées de Soranos, mais qui devaient accompagner le traité de Soranos, probablement que l'enfant se présentait autrement. Peut-être comme on le voit sur certaines gemmes magiques, on n'en a pas d'image ici, mais sur les gemmes magiques, il est aussi figuré comme un enfant parfait, prêt à naître, sous la forme du jeune dieu Harpocrate. Donc un enfant, mais terminé, donc pas un enfant fœtal.
Je voulais justement vous demander quelle est en fait la conception, non pas de l'enfant proprement dit, mais comment figure-t-on cet enfant dans l'imaginaire romain? Est-il un petit être déjà tout complet qui arrive et qui devra grandir? Est-il inachevé?
Tout dépend des points de vue. Comme pour le reste de l'exposition, hein, selon le point de vue qu'on adopte, on a une autre image, hein, comme on a une autre image de l'indifférence ou au contraire de l'attachement qu'on a envers le nourrisson, selon qu'on a une source juridique ou une source tirée de la vie quotidienne, comme ces objets, eh bien c'est la même chose pour la nature de l'embryon. Donc pour les juristes romains, un enfant n'existe qu'à partir du moment où il est né et même où il a poussé son premier cri. Donc il est important qu'il soit né vivant. Il peut être né handicapé. On a toute une législation concernant un enfant qui naît sans forme humaine, à partir de quel degré de formation est-ce qu'il est jugé être humain, mais il faut qu'il ait crié. Et à ce moment-là, il est comptabilisé. Cette comptabilité est très importante, puisqu'à l'époque d'Auguste, on instaure une politique nataliste qui va favoriser les familles ayant 3 enfants. Moins de 3 enfants, on a des pénalités au point de vue des testaments. Plus de 3 enfants, on a des facilités pour accéder à certains postes important dans l'administration.
Est-ce que ça signifie, Véronique Dazen, que l'on cherche aussi non seulement à favoriser des familles avec 3 enfants, mais même plus? Et là, on doit peut-être ouvrir le chapitre des classes sociales, car elles doivent, elles, attendre un nombre d'enfants différents selon leurs moyens, non?
Alors cette loi des 3 enfants s'applique à toute la population. Pour la femme qui a plus de 3 enfants, c'est même important parce que cela la libère de la tutelle de son mari. Alors on a dit que c'était une éternelle mineure, mais avoir beaucoup d'enfants, on espère l'inciter de cette manière-là. Ce qu'il faut dire aussi quand on parle de beaucoup d'enfants, il faut relativiser. Si vous regardez les stèles funéraires, on est très frappé. Avez-vous jamais vu une famille avec plus que 2 enfants sur ces stèles? Généralement c'est 1 ou deux. Et ça nous rappelle que ces enfants meurent très tôt, en bas âge. Donc une femme peut mettre au moins 5-6 enfants. On a des exemples dans la famille impériale. On sait qu'Adrien aura une femme, Faustine, d'une fécondité extraordinaire. Elle a 12 voire 13 enfants. Et bien de tous ces enfants-là, il n'en restera que deux vivants, adultes.
Conditions de vie, malgré tout ce que la civilisation romaine crée en matière de confort, de conduite d'eau, de soins, nous l'avons vu, de médecine également, mais enfin ça nous ramène à la précarité de la vie. J'aimerais qu'on se penche, Véronique Dazen, sur un objet extraordinaire que vous avez placé dans une des vitrines ici au musée romain de Nyon, à côté d'un Moïse, voyez, le mot m'échappe. C'est un très très bel objet.
C'est un ex voto très touchant parce qu'il a la forme d'un berceau et on y voit un enfant couché, emmailloté, la tête entourée d'un petit bonnet, bien sanglé dans son berceau. Et ça, ça nous étonne beaucoup parce qu'on voit que vraiment on a pris la précaution de mettre des anneaux le long du berceau et d'y passer des lanières qui vont le maintenir en bonne position. Sur son berceau, à ses pieds, il y a un chien qui est roulé en boule et qui le veille.
C'est magnifique, c'est très très bien sculpté. Il y a cette notion, on va dire, de tendresse, hein, le chien roulé en boule, et puis le petit là qui nous regarde, hein, bien sûr, le visage est un peu effacé, il est emmailloté. C'est un mot clé, hein, dans la conception de la toute petite enfance à Rome, Véronique Dazen, que cet emmaillotage.
Oui, il est très très important. Et là, on touche à la longue durée. On croit que l'enfant, et ça, on en trouve des traces déjà à l'époque grecque, on croit que l'enfant a encore tendre comme de la cire. Et donc, il peut se déformer. Et c'est un grand souci. Donc, pour lui assurer une croissance harmonieuse, on va l'emmailloter dès la naissance. Pas de manière indéfinie, hein. On va l'emmailloter pendant 40 jours, sur un os 10-60 jours pour les enfants les plus faibles. Et on va commencer à le désemmailloter de manière assez amusante en commençant par le bras droit, nous dit Soranos, pour ne pas en faire des gauchers.
Fait-on des différences entre les filles et les garçons, là, tout de suite après l'accouchement ?
Oui, bien sûr. Bon, la première chose que fait la sage-femme, c'est, nous dit Soranos, d'annoncer le sexe de l'enfant. Est-ce parce que ça va déterminer la réaction du père? Il faut se rappeler qu'à Rome, il ne suffit pas de naître pour exister. Il y a une deuxième naissance sociale, cette fois, qui doit se produire. C'est-à-dire que le père doit venir et dire qu'il reconnaît l'enfant et donner l'ordre de l'élever, de le procéder au premier soin. Alors, Soranos ne fait que dire... La sage-femme annonce par un geste le sexe de l'enfant, puis va l'examiner pour voir s'il est bien conformé, s'il vaut la peine, dit-elle, qu'on l'élève. Ce qui ouvre une nouvelle piste, c'est-à-dire que l'enfant qu'on juge handicapé d'une manière ou d'une autre va lui aussi peut-être être exposé, abandonné. Donc à Rome, on a une semaine environ pour décider de son sort, de cet enfant. On a donc au moment même de la naissance, le père décide ou non de l'élever, mais enfin, il peut encore avoir un repentir. Et jusqu'au 8e ou 9e jour après la naissance, cet enfant n'existe pas encore vraiment. Ce n'est que 8 à 9 jours après la naissance qu'a lieu une fête qui s'appelle le Dies Lustricus, donc un jour de purification. Et là, vraiment, l'enfant est présenté à l'ensemble de la famille. Et ce jour-là, il reçoit un nom. Alors, quand vous parlez de filles et de garçons, je dis 8 ou 9 jours. Et ça, c'est une curiosité que même les anciens ne comprenaient plus. 8 jours pour les filles, 9 jours après la naissance pour les garçons.
Mais on sait que les garçons sont moins précoces que les filles.
Voilà, et ben c'est ce que disent les anciens. Ils disent que même dans le ventre maternel, le garçon met plus de temps à se former que les filles. Et plus tard, dans ces questions romaines, dit c'est peut-être pour ça qu'on va donner un nom plus vite aux filles, qui d'ailleurs, après la naissance, vont vieillir plus vite que les garçons.
Véronique Dazen, on a parlé de l'emmaillotage, que ce soit chez les filles et les garçons. J'aimerais qu'on y revienne parce qu'on est, nous, aujourd'hui, surpris, peut-être même un peu choqués par cet emmaillotage qui contraint, qui vraiment enserre le nouveau-né.
Alors cet emmaillotage va durer non seulement à l'époque romaine, mais jusqu'à l'époque moderne, et s'accompagne en plus de soins spécifiques, de massages. On pense que ce corps qui est si tendre, on peut le modeler, on peut l'embellir, et c'est un véritable travail esthétique que préconise Soranos. Il dit la nourrice, elle va chaque jour masser le crâne de l'enfant, elle va pas vraiment le modeler, mais elle va l'arranger un peu, elle va modeler l'arête d'un nez. On pense vraiment qu'on peut encore le façonner, et ça c'est une croyance qui a duré très longtemps.
et qui permettrait peut-être d'avoir avec cet enfant des liens privilégiés, ces fameux liens physiques que nous avons réappris dans notre société notamment, il n'y a pas si longtemps.
Lien physique aussi par l'allaitement. Et peut-être que là, on pourrait enchaîner avec l'allaitement. Il y a des positions sur l'allaitement à Rome qui sont très contrastées. C'est très intéressant. Il y a ceux qui sont partisans de l'allaitement maternel et ceux, comme Soranos, qui comme toujours est très moderne, disent qu'on peut recourir à une nourrice. Et ceux qui sont contre l'allaitement par une nourrice, c'est précisément en arguant le fait qu'on va empêcher la création de liens entre la mère et l'enfant.
Et selon les classes sociales, a-t-on, je pense aussi, des soins différents liés aux moyens dont je parlais tout à l'heure.
Il est évident que recourir à une nourrice ne se fait que dans les familles aisées, où la nourrice vit sur place, donc ce n'est pas comme au 18e où on envoie l'enfant en nourrice. L'enfant reste à la maison.
Alors, on parlait de l'allaitement, on va y revenir. C'est important car sur les panneaux de l'exposition Maternité et enfance au musée Romain de Nyon, eh bien, une énigme, celui du tire-lait notamment. Ça, c'est vraiment intéressant, car il en va de la survie du nourrisson.
Alors ça, c'est une très jolie découverte faite par une archéologue de Bourges, Nadine Rouquet. Et je dis bien une archéologue, parce que il faut bien le regard d'une femme sur ces objets pour trouver leur véritable fonction. On trouvait donc jusqu'ici, très souvent, et on continue de le faire, hein, des petits récipients avec une petite embouchure et tubulure qu'on a identifié à des biberons. En analysant le contenu de ces objets, on a trouvé effectivement la trace de lait. Maintenant, s'agit-il de biberons proprement dit ? En voyant une publicité du 19e siècle pour un tire-lait, Nadine Rouquet a eu l'idée de procéder à une expérimentation. Elle avait une amie qui venait d'avoir des enfants, elle lui a demandé d'essayer un de ces biberons, en appliquant donc l'embouchure sur son mamelon et en aspirant par la toute fine tubulure. Et ça marche. Ça marche même très très bien. Et c'est très probable que certains de ces objets ont servi exclusivement de tire-lait. On sait que le lait humain était utilisé dans la pharmacopée pour fabriquer des collyres. D'autres, je pense, ont sans doute pu aussi être utilisés comme biberon pour nourrir le tout petit.
Véronique Dazen, je crois quand même me souvenir que la grande figure protectrice de Rome depuis l'Antiquité avant notre ère, c'est la louve, nourrissant Romulus et Rémus.
Curieusement, on se méfie du lait animal. On n'aime pas tellement alimenter un enfant de cette manière-là, le lait de chèvre à la limite. Et même le lait d'une nourrice, justement par certains auteurs, est jugé néfaste parce qu'on pense que le lait transmet les qualités physiques aussi bien que morales de celle qui allaite. Et Favorinus Darle, qui est un des grands opposants de l'allaitement par une nourrice, qui a écrit un traité pour l'allaitement maternel, dit qu'en somme, faire allaiter son fils ou sa fille par une nourrice étrangère, c'est lui inculquer d'autres mœurs, carrément, et que l'idéal, c'est d'avoir une grecque, et qu'ainsi, par son lait, si vraiment on doit choisir une nourrice, et qu'ainsi l'enfant va s'accoutumer aussi à entendre la plus belle des langues.
À vous entendre, Véronique Dazen, moi je suis frappée par la préoccupation, vraiment les soins apportés à cette petite enfance, là au nourrisson. On a le sentiment qu'on cherchait à ne pas se mettre sous le coup du hasard, à contrôler vraiment les choses.
Tant bien que possible, parce que justement la mortalité était très élevée, la mortalité périnatale. Chez Soranos, on trouve toutes sortes de prescriptions sur comment soigner l'enfant. Ça, c'est aussi un chapitre intéressant, c'est la pédiatrie antique. On n'a pas de traité de pédiatrie antique, mais toutes sortes de recommandations pour les tout-petits. C'est des allusions, mais qui nous font sentir combien ces vies étaient fragiles. Sels, par exemple, nous dit que des aftes chez un adulte, c'est quelque chose d'inoffensif, mais que ça peut faire mourir un petit enfant. Pourquoi ? Des aftes dans la bouche vont l'empêcher de téter, ça il ne le dit pas, mais on le sait, on l'empêche de téter convenablement et il va dépérir. Et très vite, une fièvre peut s'ajouter et très vite, il part.
Donc, un bon médecin, ce Soranos, en tout cas très observateur des maladies infantiles.
Très soucieux. Donc, c'est non seulement un traité de gynécologie, mais aussi de pédiatrie de la petite enfance.
Et quand ça se passe mal, eh bien, on est devant l'inéluctable, la mort. Là, c'est une des parties émouvantes de l'exposition. Nous venons de parler des maladies, Véronique Dazen. On se présente devant les stèles. Moi, je suis frappé par la rondeur des enfants tels que les ont sculptés les anonymes. On en a un là devant nous, c'est une stèle funéraire. Il nous regarde avec un visage tendu, une interrogation ultime, celle de la mort.
Ce qui est très touchant aussi, c'est que par hasard, sur ces deux stèles, l'enfant tient un animal familier. L'un a un petit chien, celui qui dormait sur le berceau de l'autre bébé. L'autre tient un oiseau. Ça nous rappelle de quoi était composé leur environnement, de petits jouets. On verra la vitrine des jouets, mais aussi ces petits animaux qui leur servaient de compagnons.
Alors revenons sur Terre, Véronique Dazon, avec les jouets d'enfants. Ça, c'est toujours des découvertes archéologiques qui doivent être assez merveilleuses. Retrouver là une bribe de la vie quotidienne des petits à Rome.
Alors exposée à Nyon, il y a une pièce remarquable. C'est une poupée en ivoire. On a retrouvé très peu de poupées dans le monde romain, une trentaine. Donc c'est vous dire que la pièce que vous voyez là est vraiment précieuse. Il y en a deux même qu'on a retrouvées à Yverdon. Une pour le moment est exposée, la deuxième viendra en décembre. Donc c'est des pièces vraiment exceptionnelles qu'il faut apprécier. Poupées articulées ou la figurine à la coiffure typique en vogue des impératrices de l'époque, ce qui permet de les dater, ici du IVe siècle. Elle était trouvée dans la tombe d'une jeune fille à Yverdon.
Véronique Dazon, nous sommes là au cœur de l'enfance à Rome, mais également dans l'univers du féminin, ce féminin éternellement mineur dans la civilisation romaine. Un point très important qu'une exposition ouvre ici à Nyon, c'est de donner une voix aux femmes à Rome dans l'Antiquité.
Oui, une voix dont elles étaient privées jusqu'ici, puisque la littérature est essentiellement masculine. Ces petits objets témoignent de leurs préoccupations, de leurs soucis, comme le fait de procréer, d'avoir une vie sexuelle harmonieuse et un accouchement facile, comme le montrent les gemmes magiques. Donc de pénétrer dans leur imaginaire, qui autrement ne nous est pas accessible.
Si je vous dis, Véronique Dazon, pour se quitter, les femmes et les enfants d'abord.
En fait, on pourrait dire les femmes et les enfants ensuite. Ils ont longtemps été les oubliés de l'histoire et maintenant on leur rend hommage, maintenant on part sur leurs traces. C'est clair qu'en étudiant ces sujets-là, on n'étudie pas la grande histoire, on n'étudie pas l'histoire du pouvoir, des forces politiques, des institutions, mais c'est tout un pan de la vie quotidienne qui nous touche beaucoup, puisque comme on l'a vu, il y a toutes sortes d'idées reçues, de croyances qui vont durer jusqu'au XXe. Et je pense qu'en interrogeant autour de nous nos proches, nos grands-mères et même pas seulement nos grands-mères, on se rendrait compte que bien des notions perdurées.
Merci à Véronique Dazon, historienne, qui nous a fait visiter cette exposition « Maternité et enfance » que vous pouvez aller voir jusqu'au 24 avril prochain au Musée romain de Nyon. Véronique Dazon est également l'auteur d'un ouvrage qui réunit les actes d'un colloque à Fribourg, un ouvrage intitulé « Naissance et petite enfance dans l'Antiquité ».
Notre adresse internet, espace2.ch.
Et bien sûr, vous pouvez commander les cassettes de nos émissions au 026 323 24 24. Cette émission vous était proposée par Christian Tchoka avec la collaboration de Patrick Lenoir, Isabelle Watson et Annick Chouin. Les temps qui courent, c'est tous les jours à 8h30, en nouvelle diffusion, vous le savez, à 19h30. Merci de rester avec nous dans un instant, musique en mémoire.
Om Namo Shivaya.
Musicien, peintre, écrivain, philosophe, Alain Danielou était une personnalité résolument à contre-courant des modes et des slogans actuels. Il fut l'un des rares occidentaux à être initié à l'hindouisme.
C'est dans l'érotisme que nous sommes le plus proches de l'état de béatitude du divin.
À l'occasion du 10e anniversaire de la mort d'Alain Danielou, Espace 2 propose une série d'entretiens dans l'Horloge de Sable, du 1er au 5 novembre à 17h.
4.
Espace 2, bientôt 9h. Jean-Luc Rider vous attend après les informations.
Radio Suisse Romande, les informations, Brigitte Rourty.
Le vice-gouverneur.